Et je vous invite à ouvrir vos Bibles pour les ouvrir dans l'Épître aux Philippiens. Et nous lirons donc le chapitre 4, les versets 2 à 23. Et j'exhorte Évodie, et j'exhorte Saint-Tiche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Vous le savez vous-même, Philippiens. Au commencement de la prédication de l'Évangile, quand j'y quittais la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire, car à Thessalonique déjà, à deux reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche le don. Ce que je cherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. À Dieu notre Père, la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Christ Jésus. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Voilà, c'est avec le dernier verset de cet extraordinaire épître aux Philippiens que j'aimerais commencer cette prédication, où il était dit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit ». Nous avons besoin de la grâce. En fait, sans la grâce de Dieu, nous ne serions pas ici ce matin. Nous avons besoin aussi de son œuvre dans notre esprit. Une puissante illumination du Saint-Esprit afin d'être capable de recevoir sa parole. Hein, comme une grande lampe qui éclaire un coffre au trésor qui est ouvert et dans lequel on peut puiser. Parce que sans l'œuvre du Saint-Esprit, nous sommes comme devant un coffre fermé qui est dans la pénombre et qu'on distingue à peine. Mais nous croyons que le Saint-Esprit, cette personne de la Trinité, eh bien, est puissante. Et je vous invite à désirer son œuvre. Pas juste dire « Ok, il va le faire », mais à le désirer. Je désire qu'il agisse ce matin dans mon cœur, désirer son œuvre et nous approcher par la foi du coffre ouvert et éclairé par le Saint-Esprit. Alors, afin de bien saisir cette lettre et ce qu'on va voir ce matin dans cette dernière partie de la lettre aux Philippiens, il est important de se rappeler pourquoi Paul écrit aux Philippiens. Donc on l'a déjà vu, maintenant c'est un petit rappel, mais c'est bien de l'avoir dans notre cœur. Hein, Paul, inspiré par le Saint-Esprit, envoie cette lettre pour remercier l'Église, pour remercier l'Église pour son soutien, ses dons, les dons de l'Église, et il le fait en leur enseignant durant toute l'épître quelle est l'attitude du vrai don. Hein, Donc l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, envoie cette lettre pour remercier l'Église pour son soutien, ses dons, et il le fait en enseignant une vraie attitude de don. Et il a commencé au début de l'épître par parler en fait du salut en Jésus-Christ. En fait, l'évangile qui est à la base de tout don, qui est en fait le don suprême que nous avons reçu en Jésus-Christ. Paul a ensuite parlé de la manière dont Christ s'est donné. Vous vous souvenez? Il est descendu, 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 hein, pour ensuite être élevé. Et ensuite, il donne des exemples contemporains que les Philippiens connaissent. Nous avions parlé de Timothée et d'Épaphrodite. Dans le chapitre 3 que nous avons abordé dimanche passé, dans notre survol des Philippiens, nous avons constaté que nous ne donnons pas pour remplir notre CV, notre curriculum spirituel. Hein. On ne donne pas pour remplir notre CV. En fait, nous donnons parce que nous poursuivons notre course pour saisir la perfection qui est de connaître Christ et de devenir conforme à lui. Voilà pourquoi nous donnons, voilà pourquoi l'apôtre Paul désire que l'église de Philippe aussi fasse ses dons. Et dans ce dernier chapitre, Paul remercie ses donateurs après les avoir une dernière fois exhortés. Alors le titre de cette prédication ce matin sera Donner et recevoir selon Christ. Et nous observerons quelque part comme deux arbres. Un arbre qui s'appellera donner, un arbre qui s'appellera recevoir. Et ces deux arbres auront des racines. Parce qu'un arbre sans racines, il périt, il ne donne aucun fruit. Et donc le premier arbre, comme j'ai dit, s'appelle donner. Donner en se réjouissant dans le Seigneur. C'est le nom complet de l'arbre, si vous voulez, le nom latin, si vous voulez. Okay. Et puis l'autre, qui est recevoir, c'est recevoir pour faire fructifier. Nous allons partir donc à la découverte des racines de nos arbres et de notre premier arbre, donné en se réjouissant dans le Seigneur. On va relire les versets 2 à 9 du chapitre 4. Et je vous donne déjà les trois racines que nous allons ressortir de ce texte. Comme ça, en le lisant, vous pourrez déjà être attentif à ces trois racines. La première, donc une des racines de l'arbre donné, c'est avoir une même pensée. Je l'expliquerai tout à l'heure. Deuxièmement, une deuxième racine, c'est avoir une pensée libérée de l'inquiétude pour que l'arbre donné puisse grandir. Et une troisième racine, avoir une pensée remplie de bonnes choses. Voilà les trois racines. Relisons les versets 2 à 9 de Philippiens 4. Donc je vous invite à garder vos Bibles ouvertes puisque nous nous y référerons régulièrement. Donc Philippiens 4, verset 2. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Il y a plusieurs versets dans cette portion qui sont connus, que nous entendons régulièrement. Et l'un d'eux, c'est le passage qu'on pourrait dire le 4-4 du chrétien. 4-4, un véhicule qui monte partout. Le 4-4 du chrétien. Philippiens 4-4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Mais comment donner en se réjouissant dans le Seigneur? Ça, c'est la question. Hein? Notre arbre donné en se réjouissant dans le Seigneur. Et comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, je propose sur ce survol, c'est pour ça que je parle d'un survol, parce qu'on peut aller profondément sur chaque passage, mais de nous arrêter sur ces trois racines. Et la première racine, donc donner en se réjouissant dans le Seigneur, une des racines, c'est d'avoir une même pensée. Cette notion de la même pensée tient à cœur au Saint-Esprit qui inspire l'apôtre Paul depuis le début de la lettre aux Philippiens. Et il disait déjà, en chapitre 2, au verset 2, mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée, en ayant un même amour, une même âme, une seule pensée. Parce que quand on fait face à des pensées contradictoires, ce n'est pas la réjouissance qui nous anime, mais une porte ouverte aux soucis, aux conflits, aux jeux de pouvoir, à la désunion, au dysfonctionnement, et n'amène pas à faire pousser l'arbre donné en se réjouissant dans le Seigneur. Avoir une même pensée pour être dans la joie, hein, donc avoir une même pensée pour être dans la joie, et l'attitude du don, c'est ce que Paul avait déjà développé à partir de Philippiens 2,5, qui est un verset central dans cet épître. Avoir la même pensée, être dans la joie et l'attitude de don, c'est ce que Paul avait déjà développé à partir de Philippiens 2,5, où il disait, vous allez vous en souvenir parce qu'on l'avait vu de manière assez approfondie, « Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. » Ayez en vous la pensée qui était en Jésus-Christ. C'est ça, avoir la même pensée. C'est pas la pensée d'avoir X, Y, c'est avoir la pensée qui était en Jésus-Christ. Et dans ce chapitre 4, Paul prend un exemple concret. Il connaît des gens à Philippe qui n'ont pas la même pensée. Il va dire, j'exhorte Évodie, j'exhorte Saint-Tiche à avoir une même pensée dans le Seigneur. Alors nous ne savons rien d'autre de ces personnes que ce qu'il est écrit ici dans ce texte. Mais nous savons une chose, c'est que Paul leur demande d'avoir une même pensée. Et non seulement il demande à Évodie et Saint-Tiche d'avoir une même pensée, mais il demande aux autres de les aider à avoir cette même pensée dans les versets suivants. On pourrait dire de vivre aussi un même évangile. Il n'y en a qu'un. C'est ça qui doit les unir. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons cette fameuse phrase. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est dans ce contexte-là où l'apôtre Paul invite Évodie et Saint-Tiche d'avoir une même pensée, et les autres même de les aider à avoir cette même pensée. Et quelque part, cette même pensée va amener à se réjouir dans le Seigneur. La joie est clairement liée à l'importance d'avoir la même pensée en Jésus-Christ, de vivre un même évangile. L'évangile, c'est la vie, la libération, l'héritage, la réconciliation, l'unité. Tout cela est en Christ, dans sa pensée même. Et pas en dehors de lui. C'est donc en ayant une pensée commune, celle de Jésus-Christ, que l'Église de Philippe peut faire un don à l'apôtre Paul en se réjouissant dans le Seigneur. Une racine importante, hein, de l'arbre donné, c'est d'avoir une même pensée que celle de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous ne ferons pas un don par égoïsme ou orgueil pour être reconnus ou recevoir en retour. C'est en ayant cette pensée de Christ que nous ne ferons pas un don par égoïsme ou orgueil pour être reconnus ou recevoir en retour. Donner en ayant une même pensée que Christ, c'est donner en se réjouissant dans le Seigneur. Ça, c'est une première racine. On va aller voir une deuxième racine. Donner pour donner en se réjouissant dans le Seigneur, c'est d'avoir une pensée libérée de l'inquiétude. Je pense que tout le monde ici a déjà roulé en voiture. C'est juste ou bien. Vous avez déjà vu, si jamais, comment ça se passe. Alors la prochaine fois que vous êtes dans une voiture, soit si vous êtes chauffeur ou si vous êtes les enfants derrière, vous pouvez demander au conducteur, tu vas faire un essai aujourd'hui. Tu vas tirer le frein à main et tu vas chercher à avancer. En fait, le frein tiré ralentit énormément ou bloque même la voiture. Alors rappelez-vous ceci lorsque vous ferez ce test. L'inquiétude. C'est comme un frein à main tiré. L'inquiétude, c'est comme un frein à main tiré. Et comment se débarrasser alors de ce frein gênant, voire paralysant? Comment l'enlever? Eh bien, c'est le verset 6 qui donne la solution, la marche à suivre. Ce que j'appelle une prescription médicale. Et il est fantastique ici, ce médicament, il est fantastique. Et donc, le verset 7 parlera des effets. Il n'y a pas d'effet secondaire en plus ici. Et en lisant ce verset, nous avons en tête l'évangile, la puissance de l'œuvre de Christ qui a tout accompli. Rien ne manque. Il est donc dit dans ce fameux verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. En quelque sorte, Dieu nous dit en Philippiens 4, 6 et 7, si tu ne veux plus de soucis, il te suffit de me les donner et de te concentrer avec reconnaissance sur ce que je te donne. Hein, donc, en quelque sorte, hein, dans Philippiens 4, 6, 7, Dieu nous dit, si tu ne veux plus de soucis, il te suffit de me les donner et de te concentrer avec reconnaissance. Hein, c'est ça les actions de grâce, c'est avec reconnaissance sur ce que je te donne. Un petit exemple, une illustration de ce qui pourrait vous arriver, mais une illustration de ce qui m'est déjà arrivé aussi. Un exemple, ben, par exemple, ma femme part au Jura et prévoit d'être de retour vers 22h. Il est 22h30 et même 23h et je n'ai pas de nouvelles. Voici les possibilités qui s'offrent à moi. Je peux m'inquiéter et laisser mes pensées voyager dans les films de catastrophes du fond de la cave de mon imagination. Il y a beaucoup de choses dans cette cave d'imagination. On va retirer hein, tous les éléments, les pires accidents, enlèvements, autre chose horrible qui pourrait hanter mon esprit et me rendre terriblement anxieux. Alors si je vis cette option-là, comment est-ce que je vais réagir lorsqu'elle arrivera à la maison? Avec reconnaissance, prêt à l'accueillir? Sûrement pas. En fait, elle n'aura pas franchi la porte qu'un fleuve de reproches et de peurs exprimées se déversera sur elle, avant même de connaître la raison de son retard et l'impossibilité de l'atteindre. Mais je peux aussi avoir une autre attitude. À 23h, sans nouvelles, je peux vivre le verset 6 de Philippiens 4. Priez Dieu pour lui remettre cette situation. Et en fait, à l'inquiétude qui vient frapper à la porte, hein, j'enverrai Christ répondre à Madame Inquiétude. Je peux le supplier de protéger et de garder ma bien-aimée. Je peux le remercier de nous avoir unis, de la joie de vivre la complémentarité dans la complicité, pour les dons qu'il lui a donnés. Je peux le louer pour sa puissance, pour sa sagesse. Vous voyez, je lui donne mes soucis et je prends ce qu'il me donne, parce que je m'appuie sur l'Évangile, qui me certifie que Dieu est souverain et agit pour le bien de ses enfants. Et vous savez quoi? Le verset 7 va s'accomplir. Le verset 7 va s'accomplir. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Et si ce verset 7 ne s'accomplit pas, c'est que je n'ai pas vraiment suivi l'ordonnance médicale du verset 6. C'est pas, on ne peut pas faire semblant, dire « Oh Seigneur, je te remercie, puis voilà, c'est bon. » Non, on doit réellement prendre le médicament. Ce n'est pas un placebo, c'est un médicament qui est réellement puissant et qu'il faut vivre tel qu'il est écrit dans sa parole. Et quand enfin mon épouse rentre à la maison, comment est-ce que je vais l'accueillir? Eh bien, premièrement, avec un grand soulagement, évidemment. Et puis, avec reconnaissance envers celui qui a pris mon inquiétude et qui s'est occupé de ma bien-aimée. Une pensée identique à celle de Christ est une racine importante pour l'arbre donner et recevoir selon Christ. La pensée libérée de l'inquiétude et concentrée sur Christ est une autre racine importante pour donner dans la réjouissance. Comment se réjouir et donner en étant inquiet? Rappelez-vous comment avancer en voiture avec le frein tiré. La seule manière de donner sans inquiétude, c'est de donner ses inquiétudes à Christ. Et de saisir l'Évangile avec reconnaissance. Et nous saisirons et nous serons remplis de cette paix qui surpasse toute intelligence. Et je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont déjà vécu cela dans des situations précises. Avez-vous déjà saisi l'Évangile? Vous êtes-vous repenti de vos péchés? Mais sans s'arrêter là, en saisissant l'œuvre de Christ qui les a réellement tout pardonnés. Si vous vous repentez et que vous êtes simplement en train de vous lamenter d'avoir péché, c'est que vous n'avez pas saisi l'œuvre de Christ. Il a payé, c'est pardonné. Êtes-vous confiant qu'il tient tout dans sa main, que rien ne peut vous arriver sans qu'il la maîtrise? Déposez-vous vos fardeaux. Passons à une troisième racine importante pour cet art donné en nous réjouissant dans le Seigneur. C'est d'avoir une pensée remplie de bonnes choses. Au verset 8, Paul donne une liste de critères pour déterminer ce qui est bon. C'est un excellent filtre à appliquer à nos pensées, hein, puisqu'on est appelé à maîtriser nos pensées. Ici, on a un filtre qui nous est donné. Nous pourrions dire qu'il nous invite à nous remplir nos pensées de tous les aspects de l'Évangile. Pourquoi remplir ces pensées de bonnes choses? Bon, je pourrais vous demander, pourquoi manger une nourriture équilibrée? Pourquoi bouger suffisamment? et avoir un repos suffisant pour favoriser notre santé. Eh bien, pour la pensée, c'est la même chose. On ne se balade pas, on ne regarde pas des films qui nous souillent les pensées en pensant qu'on sortira quelque chose de bon. On ne laissera pas promener ses pensées sur Internet pour nous saturer de pensées, d'informations inutiles ou alors franchement impures. Ou lorsqu'on laisse promener nos pensées dans les champs des critiques, que ce soit en lien avec les défauts des anciens ou les défauts des membres de l'Église ou de la société ou même du voisin de palier. Tout cela amènera la maladie dans nos pensées, comme la mauvaise nourriture. Et amènera aussi le dysfonctionnement et des réactions tout à fait inadéquates. Juste une petite illustration. Vous avez déjà été dans une cave où il n'y a pas de fenêtre. Bon, un endroit où il n'y a pas de fenêtre. Une cave profonde. Vous allez dans cette cave, il y a une petite lumière qui brille, vous devez aller chercher, je ne sais pas, vos pommes de terre par exemple, et la porte claque et la lumière s'éteint. Votre réaction et votre attitude dépendra de ce qui a nourri vos pensées. Si vous avez vos pensées qui est remplies de, bon là c'est peut-être un peu extrême, mais d'un film d'horreur que vous venez de voir, hein, ou d'une histoire vous glacez le sang, vous n'aurez pas tout à fait la même réaction que si vous vous souvenez de promesses de Dieu par exemple, qui dit que Dieu sera là partout où nous serons. Votre réaction ne sera pas la même. Nous allons réagir selon ce qui nourrit nos pensées. Et ça, c'est une phrase que j'ai déjà souvent dit, et je la dirai encore, désolé, mais c'est important. Nous débordons toujours de ce que nous sommes remplis. Nous débordons toujours de ce que nous sommes remplis. Vous ne verrez jamais déborder de l'eau d'un verre que vous remplissez constamment d'huile. Nous débordons de ce que nous sommes remplis. Hein, pour faire grandir l'arbre de donner, hein, donner avec reconnaissance, et qu'il produise du bon fruit, nos pensées doivent être remplies de bonnes choses, de tout ce qui est vrai, honorable, ce qui est juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange. Ainsi, nous serons amenés, voire poussés, à donner, et nous le ferons en nous réjouissant dans le Seigneur. Donc l'apôtre Paul a présenté ici trois racines, donc nous avons mis ça ensemble, hein, synthétisé en trois racines importantes qui permettent de donner en se réjouissant dans le Seigneur. Elles sont toutes plantées dans le terreau de l'évangile de Christ. Premièrement, avoir une même pensée. En fait, savoir un même évangile. Deuxièmement, avoir une pensée libérée de l'inquiétude. En fait, c'est vivre l'évangile qui nous libère justement. Et troisièmement, avoir une pensée remplie de bonnes choses. Ben, c'est être rempli de tout l'enseignement de l'Évangile. À présent, il est temps de nous tourner vers le second arbre, recevoir. Recevoir pour faire fructifier. À nouveau, nous allons relire le texte biblique des versets 10 à 23 et je vous donne déjà les trois racines que vous pourrez découvrir dans le texte. La première racine que j'intitule « Reconnaître la source ». Reconnaître la source. Deuxième racine, « Vivre le contentement ». Et troisième racine, gérer le don reçu. Ces trois racines sont très importantes pour faire pousser l'arbre, recevoir pour faire fructifier. Relisons les versets 10 à 23. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, quand j'ai quitté la Macédoine, aucune église, si ce n'est la vôtre, n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous avez été les seuls à le faire. Car à Thessalonique déjà, et à deux reprises, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche le don. Ce que je recherche, c'est le fruit abondant porté à votre compte. J'ai tout reçu, et je suis dans l'abondance. Je suis comblé, ayant reçu par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. À Dieu notre Père la gloire au siècle des siècles. Amen. Saluez tous les saints en Christ Jésus. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Une première racine pour recevoir et porter du fruit, c'est donc de reconnaître la source. La clé de cette partie ici de texte, de cette péricope, c'est le verset 13. C'est un verset fantastique. Il est dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Bon, attention, ne sortons pas la phrase de son contexte. Parce que sinon, nous dirons « Je peux faire tout ce que je veux, n'importe quoi, parce que Dieu me fortifie ». Non, Paul dit cette phrase dans un contexte. Dans un contexte clair de contentement exercé alors que lui était prisonnier à Rome. Regardez versets 10 à 12. Hein. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Hein? Je sais faire ceci, je sais faire cela. » En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. J'ai appris tout cela. Et au verset 13, il donne la clé, la source. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est-à-dire, je peux être content tout le temps. Par celui qui me fortifie. Paul, en recevant le don des Philippiens, veut qu'ils comprennent que leur don est un encouragement pour lui, mais pas le fondement de son contentement. Hein? Ce qu'il reçoit, il en est encouragé, évidemment. Mais ce n'est pas le fondement de son contentement. Il n'est pas seulement content lorsqu'il reçoit un soutien, il est toujours content parce qu'il peut tout par celui qui le fortifie. Ça, c'est important. Il n'est pas seulement content quand il reçoit un soutien. Il est toujours content parce qu'il peut tout par celui qui le fortifie. Il a tout reçu par l'évangile de Christ. C'est-à-dire, quand je vous parle de l'évangile, vous pensez à quoi? Je parle souvent de l'évangile, en fait. J'aime ce terme, mais bon, s'il n'y a rien derrière, c'est un peu dommage. C'est quoi l'évangile? Eh bien, vous pouvez toujours faire une liste. Faites une liste à la maison. Hein? Je vous en donner quelques éléments que vous pourrez mettre dans votre liste. Et vous pourrez la compléter. Mais la joie du pardon fait partie de l'évangile. La purification de ses péchés. Une nouvelle identité. Une famille. Un avenir glorieux. Un but clair dans notre vie, ici-bas. Des moyens pour faire face aux conflits. Pensez aux artisans de paix. Des promesses qui lui font voir les circonstances différemment. Le soutien moral et spirituel indéfectible du Consolateur. Continuez la liste à la maison, ça vaut la peine. Eh bien ça, c'est le fondement du contentement. Paul reconnaît que la source n'est pas le don qu'il reçoit des Philippiens, et que ce don, en fait, provient de Dieu qui a utilisé le moyen des Philippiens pour lui donner ce don. Ainsi, lorsque vous recevrez des cadeaux à Noël, on reçoit des cadeaux des fois à Noël, eh bien rappelez-vous, en fait, que votre contentement ne dépend pas de ce cadeau, mais de la source qui est Jésus-Christ qui donne la vie. Bien sûr qu'on peut être reconnaissant et content de recevoir ce cadeau, mais ce n'est pas le fondement, la source du contentement. C'est Jésus-Christ, car notre contentement dépend de celui que nous adorons. Ça, c'est toute la notion par rapport à nos idoles. Si on n'est plus content parce qu'on ne reçoit pas ce qu'on veut, c'est que peut-être on n'est plus en train d'adorer Dieu, mais ce qu'on aurait bien voulu recevoir. Parce que le mécontentement est souvent lié à de mauvaises attentes. Le mécontentement est souvent lié à de mauvaises attentes. Plaçons donc notre attente au bon endroit, en celui qui est la source de tout contentement, et nous serons capables de recevoir pour faire fructifier. Parce que si on reçoit quelque chose et on n'est pas content, comment le faire fructifier? Alors personne ne peut le fabriquer, ce contentement. Personne ne peut fabriquer ce contentement qui permet, par exemple, à une femme tétraplégique de témoigner de sa foi durant des décennies. Vous connaissez Johnny. Ni à un jeune homme sans bras ni jambes de parler de l'amour de Dieu. Et pourtant, cela existe. C'est la source que l'apôtre Paul présente au verset 13 qui en est la raison. Je puis tout par celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie. Le fondement du contentement pour Paul, c'est Dieu. Celui qui le fortifie, celui qui l'a sauvé, celui qui le garde, celui qui prend soin de lui. En fait, son fondement, c'est l'Évangile. Déjà, lorsque nous parlions de se réjouir, c'était dans le Seigneur. Eh bien, on peut aussi dire se contenter, c'est aussi dans le Seigneur, où vive le contentement. Bon, ça, c'était la première racine, à la source, pour pouvoir recevoir en faisant fructifier. La deuxième racine, pour recevoir et porter du fruit, c'est vivre le contentement. Connaître la source, c'est vrai, mais le vivre également. La possession du contentement, ce n'est pas un penchant naturel chez l'homme. Alors, je sais que certains ont un jardin, ici. Alors, ceux qui n'ont pas de jardin, eh bien, observez un petit peu les tas de terre. Qu'est-ce qui se développe sur ces tas de terre? En fait, la mauvaise herbe pousse sans difficulté. La convoitise, le mécontentement ou les plaintes sont aussi naturels pour l'homme que les mauvaises herbes pour le sol. Pas besoin de semer la mauvaise herbe. Elle surgit spontanément et naturellement parce qu'elle appartient au sol qui est sous la malédiction de Dieu. Pas besoin d'enseigner à l'homme de se plaindre. Alors, les parents, ils le savent, avec les enfants, ils n'ont pas besoin d'enseigner de se plaindre. Il le fait par nature. Et c'est un mal extrêmement contagieux. En revanche, les choses précieuses de la terre doivent être cultivées, comme la santé, qui n'est pas contagieuse au même titre que la maladie. Hein, les enfants, il ne suffit pas de se mettre à côté de quelqu'un en bonne santé pour choper, comme on dit en bon jurassien, sa bonne santé. Il faut labourer, semer si on veut du blé, ou prendre soin du jardin pour qu'il y pousse des fleurs et des légumes. Le contentement est, on pourrait dire, une des fleurs du ciel que nous devons cultiver pour la posséder. Paul dit bien, j'ai appris à me contenter. C'est pas ça m'est tombé dessus. J'ai appris à me contenter. Et pour bien comprendre le contentement, nous allons juste observer deux petits éclairages ici. Premièrement, c'est que le contentement, c'est quelque chose d'intérieur. Et deuxièmement, que le contentement, c'est une habitude. Alors, le contentement est une chose intérieure. Ça ne repose pas juste sous l'écorce de l'arbre, mais c'est dans sa racine, au fond du cœur de l'homme. Le contentement n'est pas premièrement extérieur, mais premièrement intérieur. Lorsque la tempête fait rage à l'extérieur, la musique continue de résonner à l'intérieur de votre salon. Pas parce que ça fait rage à l'extérieur qu'on ne peut pas être content à l'intérieur. Lorsque la tempête fait rage à l'extérieur, la musique continue de résonner à l'intérieur de votre salon. Si des voleurs nous dépouillent notre argent, nos biens, ils ne peuvent toucher à cette perle de contentement à moins que nous ne décidions nous-mêmes de nous en séparer, parce qu'elle est enfermée dans le coffre-fort de notre cœur. Et le contentement est une chose intérieure que Paul avait déjà lorsqu'il a reçu le don des Philippiens. Il l'avait déjà, en fait, dans le cœur, quand il a reçu le don des Philippiens. Il est le fruit d'un évangile compris et vécu. Et deuxièmement, comme j'ai parlé de deux éclairages pour le contentement, nous avons dit que le contentement est une habitude. Alors là, une petite illustration. Le contentement n'apparaît pas comme un feu d'artifice qui, peu après l'éclat, disparaît. Vous avez déjà vu les feux d'artifice? C'est juste magnifique, mais ça ne dure vraiment pas longtemps. Ce n'est pas ça, le contentement. Le vrai contentement, selon la parole de Dieu. Au contraire, le contentement est comme un phare d'un port allumé en permanence la nuit. Pas comme un feu d'artifice, mais comme un phare allumé en permanence. Le contentement n'est pas une action unique. On ne dit pas quelqu'un qu'il est généreux s'il donne un petit don une seule fois dans sa vie. De même, on ne peut pas dire que nous vivons le contentement si on n'est pas content lorsque tout ne se passe pas comme nous voulons. Paul, en fait, enseigne à ses Philippiens qu'il apprécie leur don, qu'il est content de le recevoir, mais son contentement, il le vivait déjà avant le don. Et il le vivra encore après le don. Et c'est cela qui va l'aider, qui va faire pousser cet arbre de recevoir pour faire fructifier. Et la troisième racine, justement, de cet arbre, c'est gérer le don reçu. Pardon. Paul est un gestionnaire. Il sait que tout ce qu'il a, en fait, appartient à Dieu. Parce que Dieu, d'un jour à l'autre, peut vous enlever tout ce que vous avez. Ça lui appartient. Mais nous en sommes gestionnaires, responsables. Et il l'exprime aux Philippiens en leur faisant comprendre que pour lui, leur don appartient à Dieu. Paul va l'utiliser en le gérant de manière à porter un fruit abondant qui sera porté au compte des Philippiens. Hein, Paul, par les dons, il ne cherche pas à s'enrichir. Ce n'est pas « donnez-moi pour m'enrichir ». Non, en fait, il a besoin de dons, il est vrai, pour chercher à proclamer l'Évangile. C'est ça son but. Hein? Paul ne cherche pas à s'enrichir, il cherche à proclamer l'Évangile. Et il a besoin de moyens pour le faire. Mais ces moyens, ce soutien, ce n'est pas son but. Son but, ce n'est pas d'être soutenu. Son but, c'est d'annoncer l'Évangile. Et le soutien doit être un moyen. En fait, ce soutien, ce n'est pas son but, c'est un outil qu'il utilise pour proclamer l'Évangile. Donc lorsque quelqu'un lui donne de l'argent pour qu'il puisse vivre et ainsi annoncer l'Évangile, les fruits de son ministère sont aussi accrédités celui qui l'a soutenu financièrement. Donc tous ceux que Dieu a touchés par la parole, par la prédication de Paul, sont un fruit de son ministère, il est vrai, mais aussi de ceux qui l'ont soutenu. Lorsque quelqu'un, par exemple, prie pour un camp d'enfants, il n'est pas au camp, il est à la maison en train de prier pour ce camp d'enfants, et que des enfants sont touchés par Dieu, transformés par Dieu, eh bien, le crédit de ce fruit n'est pas seulement pour les moniteurs qui sont présents, mais également pour ceux qui ont prié. C'est ensemble que nous vivons, et j'aime le dire. Si je prêche la parole ici ce matin, et que ça touche certains cœurs, des gens ont prié pour cette prédication, ils ont le fruit est autant porté à leur crédit, combien ? C'est important. Et c'est ce que l'apôtre Paul leur dit ici. Ce n'est pas que je cherche le don, je recherche le fruit abondant porté à votre compte. Donc j'utiliserai ce que vous me donnez pour annoncer l'évangile, afin que du fruit soit porté à votre compte. Donc lorsque Paul annonce l'évangile, ce que Dieu et que Dieu agit, ce fruit est autant mis sur son compte que sur celui des Philippiens qui le soutiennent. Et s'il cherche le fruit abondant pour les Philippiens, il a également confiance que Dieu prendra soin d'eux. Et le verset 19, c'est un verset qu'il est bon de relire régulièrement. C'est un de ces versets promesses de Dieu qui nous donne, où il dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Christ Jésus. » Rappelons-nous que cette promesse est donnée ici dans un contexte de don. Il est donc important de comprendre que donner nous assure que Dieu pourvoira nos besoins. C'est la logique de Dieu. Donner pour recevoir. Et pas attendre de recevoir plus pour donner. On se dit toujours, d'abord il faut que je reçoive plus et ensuite je pourrai donner. C'est pas la logique de Dieu. C'est donner et il va pourvoir. Que Dieu nous fasse la grâce de devoir pousser cet arbre, recevoir pour faire fructifier. Puisque nous recevons pour donner. Les trois racines de l'arbre recevoir étaient reconnaître la source. Nous reposons nos sentiments sur l'évangile lorsque nous recevons quelque chose. Deuxièmement, vivre le contentement est la deuxième racine. Nous vivons l'évangile car lorsque nous l'avons saisi et compris, le contentement précède même les cadeaux que l'on peut nous faire. On est déjà content. Et troisièmement, utiliser le don reçu. Nous avons compris avec l'évangile que ce que nous avons reçu n'est pas pour notre bien-être personnel. Les cadeaux que nous recevrons seront donc utiles pour aider, encourager et fortifier d'autres. Pour conclure, nous avons ces images des deux arbres en tête pour nous souvenir l'enseignement de Paul dans ce dernier chapitre des Philippiens. L'arbre donné, donné en se réjouissant dans le Seigneur, a au moins les trois racines. Avoir la même pensée que Jésus-Christ. Et cela donne un fruit excellent qui est donné sans attendre en retour. Deuxième racine de cet arbre donné, en se réjouissant dans le Seigneur, avoir une pensée libérée de l'inquiétude. Et l'excellent fruit que cela donne, c'est donner avec joie. Et troisième racine, avoir une pensée remplie de bonnes choses. Et cela donne le fruit donné avec sagesse. L'arbre recevoir, maintenant, ça va ? Oh, il y a beaucoup d'un coup, là. Hein? Bon, si jamais, sur les petites feuilles derrière, il y a un petit résumé, donc ça aide. Et deuxièmement, donc, l'arbre recevoir, recevoir pour faire fructifier les trois racines, reconnaître la source. Et là, un fruit excellent, c'est recevoir en reconnaissant que tout vient de Dieu. Deuxième racine, vivre le contentement. Et cela donne le fruit, recevoir avec reconnaissance, sans s'attacher aux choses de la terre. Et troisièmement, troisième racine, gérer le don reçu, et cela donne le fruit, recevoir pour partager et chercher le bien du donateur. En fait, Dieu va se réjouir de voir ces deux arbres pousser dans nos vies, l'arbre donné en se réjouissant dans le Seigneur, et l'arbre recevoir pour faire fructifier. Que Dieu nous permette de saisir ces éléments, et nous allons maintenant le prier pour lui demander aussi de nous aider à retenir et appliquer ce que nous avons entendu. Prions. Éternel, notre Dieu, c'est une grâce de pouvoir lire ta parole. Merci pour l'apôtre Paul qui a reçu un don de l'église de Philippe et que tu as conduit, qui a décidé de leur écrire une lettre pour les remercier. Et il l'a fait de telle manière à ce que nous, encore aujourd'hui, soyons édifiés, encouragés, fortifiés. Merci pour cette partie que nous avons aussi pu étudier aujourd'hui, qui nous aide à saisir que pour donner en nous réjouissant en toi, eh bien tu nous invites à avoir une pensée qui soit la même que toi. Parce que tu es celui qui sait réellement donner. Et nous désirons, Seigneur, que cette racine se plonge toujours plus profondément dans ce terreau de l'évangile, de ta parole aussi. Te prions que cette racine d'avoir cette pensée libérée de l'inquiétude puisse aussi grandir. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons laissé l'inquiétude couper cette racine si importante. Ô Seigneur, permets que nous puissions aussi remplir nos pensées de bonnes choses. Tu vois combien nous sommes tentés de nous laisser aller à regarder tout ce qui passe devant nos yeux, à ne pas tenir en bride nos pensées. Ô Seigneur, garde-nous, aide-nous, afin que cette racine aussi puisse grandir et qu'ainsi nous puissions avoir beaucoup d'idées qui sont bonnes, qui viennent de la vérité, de pensées pures, de pensées encourageantes pour donner avec joie et avec reconnaissance. Seigneur, te remercions parce que non seulement tu nous appelles à donner, mais tu nous donnes cette joie de recevoir aussi. Oh Seigneur, garde-nous de l'orgueil et de ne pas vouloir recevoir. Donne-nous, Seigneur, d'humblement aussi recevoir ce que tu nous donnes, par différents moyens, par différentes personnes que tu guides, comme l'apôtre Paul a reçu ce don des Philippiens. Permets, Seigneur, que nous puissions le recevoir en reconnaissant que tout vient de toi. Que nous puissions le recevoir en étant déjà contents et en désirant faire fructifier tout ce que tu nous donnes. Ô Seigneur, sois loué, sois béni, parce que dans ces temps de l'Avent, eh bien, nous pouvons nous rappeler que tu es ce Dieu qui t'est donné, qui est venu ici-bas, pour nous sauver. Sois loué et béni dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.